6h, 9h.
Très matin.
Musique, info,
conseils pratiques,
trucs, astuces.
Le zapping.
Radio.
Télé.
Balafon radio.
Sacré matin.
Et les événements.
Cyril Mojico.
Du lundi au vendredi.
Le réveil sur le bon pied.
Désormais promis ou promise à votre partenaire et donc occupé à bâtir une relation durable. Mais ce n'est absolument pas une forme de mariage. C'est un temps que vous prenez pour apprendre à mieux vous connaître. Vous pouvez ainsi évaluer si vous êtes prêt à vous marier ou pas. La dot est une coutume répandue dans de nombreux pays. C'est une pratique biblique par laquelle l'homme s'engage auprès de la famille de sa fiancée à la prendre pour femme. En s'acquittant d'une offrande de compensation sous forme de cadeau ou d'argent à la famille, il promet de l'aimer, de pourvoir à ses besoins et d'en prendre soin pour la vie. En d'autres termes, selon la tradition, doter une femme équivaut à l'épouser. C'est la bénédiction familiale. Dans les temps anciens, donner la dot suffisait pour se marier officiellement, car les parents faisaient également office de responsables religieux pour les enfants. Les autorités administratives, comme les mairies, n'existaient pas. La présence d'une autorité religieuse permettait au couple de recevoir la bénédiction de Dieu qui accompagnait celle des parents. Il est donc impératif de comprendre que dès que la dot a été versée, celle de la fiancée ou du fiancé, suivant les coutumes, vous n'êtes plus tout simplement fiancé, mais bien marié devant la famille. Principe numéro 26. Il est important de se marier à l'église, même lorsque la dot a été payée à la famille de la fiancée ou du fiancé. Vous devez confirmer votre mariage traditionnel à l'église afin d'obtenir la bénédiction de Dieu pour votre union. En effet, de même que Dieu a établi des autorités naturelles, que sont vos parents, qui vous ont éduqué et encadré, il a chargé vos responsables spirituels de vous nourrir de sa parole, et ils devront lui rendre des comptes pour cela. Je vous recommande vivement, et je dirais que c'est même obligatoire pour certains, d'attendre la bénédiction de Dieu après celle des parents avant de consommer le mariage. Renseignez-vous auprès de vos leaders afin que vous ne soyez pas une occasion de scandale dans votre église locale. Principe numéro 27. Ne vous fiancez pas à deux personnes en même temps. Ne faites pas subir à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Principe numéro 28, enfin. Un baiser sur la joue est largement suffisant pour exprimer votre amour et votre affection. Évitez les attouchements, car vous laisseriez vos hormones prendre le contrôle. Votre peau contient 8 millions de capteurs sensoriels qui, au contact de la peau, envoient des informations au cerveau. Celui-ci libère ensuite des hormones prêtes à parler à votre place en l'espace de quelques secondes. Nos émotions nous poussent souvent à vouloir explorer avant d'aller plus loin. Mais vous avez l'avenir devant vous pour cela. Si vous allez jusqu'au mariage, vous ne rencontrerez aucune personne dépendante à la drogue, à l'alcool ou à la pornographie ou autre qui vous dira qu'elle avait depuis le début l'intention de le devenir. Évitez de tenter Dieu et d'aller au-delà de ce que vous ne pourrez pas contrôler. En vous aventurant davantage, vous risqueriez au moins de souiller vos pensées et de pécher contre Dieu. Honorez-le dans vos fiançailles et il répandra sa faveur sur votre mariage. Souvenez-vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Grand B, dernière partie de ce livre, je vais aborder avec vous 17 réponses à des questions que se posent souvent les célibataires et qui ont été posées au cours de nos ateliers. Question numéro 1. Que faire lorsqu'une femme est convaincue que Dieu lui a montré son partenaire, mais que celui-ci semble ne pas la remarquer? Les opinions divergent sur ce point. Une femme devrait-elle prendre l'initiative d'approcher un homme? Certains disent que c'est une abomination et qu'une femme ne peut prendre les devants étant donné que dans la Bible, aucune, à l'exception de Ruth, n'a fait le premier pas. Cette façon de penser est soutenue par le fait que la Bible déclare « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Proverbe chapitre 18 au verset 22. Cela suppose qu'il a cherché auparavant donc que l'initiative lui revient. Dans le cas où l'homme ne s'apercevrait pas de l'intérêt qui lui est porté, la médiation d'une tierce personne mutuellement respectée par les deux intéressés serait bienvenue. Question numéro 2. Passé 30 ans, la pression familiale s'intensifie pour les célibataires. Comment y faire face? Il est compréhensible que vos parents s'inquiètent pour votre mariage. Ce sont d'ailleurs les seules personnes auxquelles vous devez des explications quant au choix de votre partenaire. Pour faire taire leurs inquiétudes, parlez-leur de votre vision, de vos ambitions et des raisons possibles de ce retard. Apaisez-les par votre assurance et votre foi inébranlable dans la réalisation du plan de Dieu pour votre vie. Enfin, demandez-leur de se joindre à vous en prière, même s'ils ne sont pas en Christ. Car si vous priez en accord, Dieu les rassurera aussi. Matthieu chapitre 18 au verset 18. La bénédiction que les parents prononcent sur les enfants est puissante, car ils sont les sacrificateurs de leur foyer. Mais dans tous les cas, ne cédez jamais à la pression, surtout si vous savez que vous ne faites pas le bon choix. Vos parents souffriraient autant que vous si vous veniez à épouser la mauvaise personne. Proverbe 21, verset 5, de nouveau. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Question numéro 3. S'il me semble que Dieu tarde pour mon mariage, puis-je lui donner un ultimatum? Quand est-ce le temps de Dieu? Tout d'abord, il vous faut comprendre que Dieu ne subit pas la pression du temps, car il vit dans l'éternité. Le temps n'est qu'une interruption, une pause de l'éternité. Les hommes qui vivent sur terre sont pressés, mais pas Dieu, puisqu'il se situe hors du temps. Il peut faire irruption dans le temps pour une saison et une mission précise, par exemple la venue de Jésus-Christ sur terre. Puis une fois son œuvre accomplie, il repart dans l'éternité d'où il est venu. La notion de retard devant Dieu est relative, car la Bible dit qu'il fait toutes choses parfaites en son temps. Son timing est toujours le meilleur, car il est omniscient. Il connaît parfaitement toutes choses, ainsi que le moment approprié pour son accomplissement. Ce que vous interprétez comme un retard peut être pour Dieu une phase de préparation ou de transformation de votre caractère avant de recevoir votre bénédiction. Il serait sage que vous demandiez en toute humilité au Seigneur la raison de ce que vous considérez comme une trop longue attente. Mais Dieu est tellement intègre et fidèle que vous devez admettre qu'il n'est jamais en retard ni en avance. Il est toujours ponctuel. Sa montre n'est certainement pas la vôtre et il fera toutes choses parfaites en son temps. Fixer un ultimatum risquerait de vous frustrer vous-même car vous avez peu de chances d'infléchir le cœur de Dieu par cette méthode. Souvenez-vous qu'il est le potier et que vous êtes l'argile. Il est le créateur et vous la créature. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent et pas vous. La foi totale est ce qui émeut le cœur de Dieu, certainement pas la menace. Habacuc chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Question numéro 4. Si le Seigneur me montre ma future partenaire, mais que celle-ci me rejette constamment, suis-je libre d'en chercher une autre? Dieu est trop intègre pour modifier sa volonté parfaite. Il est bien trop omniscient pour changer d'avis. La vraie question est, êtes-vous certain d'avoir entendu la voix de Dieu? Si Dieu vous a réellement parlé à ce sujet, pourquoi vous impatienter et vouloir changer de direction? Si vous pouvez répondre oui avec assurance, alors attendez qu'il en donne la conviction à votre futur partenaire. Par contre, demandez-vous très sincèrement si vous avez entendu la voix du Saint-Esprit. Où était-ce? Celle de vos émotions. N'ayez aucune honte si vous avez manqué de discernement en croyant reconnaître sa voix. Si c'est le cas, continuez de prier car il a promis de vous instruire, de vous montrer la voie à suivre, de vous conseiller. Psaume 32, verset 8. Beaucoup de croyants ont quelquefois du mal à admettre qu'ils n'ont pas véritablement écouté la voix de Dieu. Soyez honnête et ne vous trompez pas vous-même. Ne retardez pas votre bénédiction à cause de votre obstination à espérer ce que Dieu ne vous a pas promis. Si vous êtes certain que c'est lui qui vous a parlé, alors attendez patiemment, car la prophétie s'accomplira certainement. À vous, donc, d'évaluer la source de votre conviction.
Vous avez loupé une actualité ? Sacré Matin vous met à la page avec les analyses de nos experts et consultants. Sacré Matin, l'info et la bonne humeur qui se lèvent tôt.
Je vous dis que l'affaire, si ça va finir au Conseil constitutionnel.
Où ? Qui a quoi là-bas ?
Moi, je vous dis non, restez là. Pensez toujours que c'est ce qu'on sous-estime là qui crée les palabres. Moi, je vous dis. Il n'y a rien.
Absolument rien.
Mon cœur ne bat pas.
Il n'y a rien. Bonjour Cyril.
Bonjour Marie-Flo. Bonjour Madame.
Bonjour
Madame. Bonjour cher confrère.
Bonjour cher confrère.
Ça a été le week-end.
Oui, ça c'est une très bonne semaine parce que nous aurons deux fériés.
C'est encore
quoi ? On aura Ramadan 1 et Ramadan 2.
Oula. Ça sent encore doux.
Le 10 et le 11.
Non.
Je tiens, vos histoires l'a fait quand même sur le Ramadan.
Oui, bien parce que justement,
nous de la Commission nationale du croissant lunaire,
oui.
Nous allons compléter le mois de Ramadan.
Oui.
À 30,
oui.
Mercredi et jeudi, c'est la fête.
Voilà.
Donc, et toi, du conseil chez lui, c'est mercredi.
Moi, le conseil lunaire, c'est le 10.
Toi, le 10 autres.
On s'arrive avec le Yémen, l'Arabie Saoudite.
Monsieur,
c'est comme ça.
C'est la commission du croissant, nationale du croissant lunaire qu'on reconnaît au Cameroun.
Bon.
Qui veut bagarrer ta
qui reconnaît
dépend
bon,
de,
qui
du
reconnaît
Minat.
Qui reconnaît
qui veut bagarrer ta
Minat. C'est comme s'il a mis sa bouche sur les affaires de football là.
Je dis,
quand il met sa bouche, c'est tout divisé par deux.
Comme ça, non.
Comment?
Dans les partis politiques, il met sa bouche, c'est divisé par deux.
La portée, le désordre.
La fête du Ramadan divisée par deux. Bientôt, même Pâques aura deux dates.
Non, Pâques n'aura pas.
Hein? D'accord.
En passant, Ibrahim.
Oui.
Parce que c'est ton nom.
Bien sûr.
Ibrahim, la fête, c'est quand?
Selon
l'organe. Je dis, c'est quel pays
selon l'apparition de la lune. Vraiment. Selon l'organe
voilà,
que l'État
vous voyez, madame, il n'arrive même pas
selon à s'exprimer. L'organe que
Daoud
l'État
a patienté.
Vous donnez la parole à cet imposteur, il raconte quoi là
Daoud madame. A patienté, Ibrahim.
Qui ne me coupe plus.
La fête.
J'ai pris du temps pour arriver.
La fête de fin de jeûne de Ramadan, c'est quand?
Alors, selon les Saintes Écritures et selon le fonctionnement du pays, du Cameroun, c'est la Commission nationale du croissant lunaire qui va annoncer le jour de la fête, du moins à la suite de l'apparition de la lune.
Daouda,
voilà.
Bien.
Vous êtes du conseil.
Alors, vous savez qu'effectivement...
Quand aura lieu la fête de fin de jeûne du Ramadan au Cameroun?
Puisque déjà, les premiers nous font déjà savoir que la lune apparaîtra.
Vous avez mené des études.
La nuit du 10, oui, bien sûr. Donc, le 10, pour nous, est une date arrêtée pour la clôture du jeûne du Ramadan. Et donc, la fête, la célébration de cette fête religieuse très importante. Mm-hmm. Maintenant, d'autres qui voient la lune sur leur toit le jour que ça leur plaît, ça n'engage qu'eux. Voilà, madame, où nous en sommes aujourd'hui.
Mais est-ce que vous ne voyez pas Ibrahim, Daouda, Cyril Bojico, est-ce que vous ne voyez pas que là, ça perturbe un tout petit peu le fidèle musulman?
Ça ne perturbe pas. Ça
qui, lui, ne sait pas, finalement, c'est mercredi, c'est jeudi.
Ça sera comme le début de ces mêmes jeunes. Vous savez bien qu'il y en a qui ont commencé mardi, d'autres
ont commencé mercredi. Vous voyez, même la parole, ils se
disent. Voilà, d'autres ont commencé mercredi.
Voilà, ça sera comme au début.
Voilà.
Donc finalement, ça veut dire que chacun fait en fonction de son
début. Non, non, ça se termine comme ça a commencé.
C'est une religion organisée et ordonnée.
Voilà.
Par conséquent, la fête, c'est quand?
Par conséquent, puisque c'est la voix de la commission qui a primé au début,
on va aller dans ce pays.
Forcément, à la fin, c'est toujours cette même commission qui va donner l'orientation.
Et l'orientation, c'est laquelle?
Jeudi.
Daouda, Cyril Bojico, vous êtes d'accord?
Mercredi.
J'ai dit jeudi.
Mercredi.
Jeudi.
Mercredi.
Madame, je vais
vous sortez ou partez où? Parce qu'on a un deuxième sujet. Qui est le sélectionneur des Lions Indomptables?
Très bien.
Cyril Bojico.
Eto.
Comment Brice. Ça, Eto?
Marc Brice.
Eto.
Marc Brice.
Eto.
Brice.
Non, mais Eto. Mais Eto est président de la fédération, il n'est pas sélectionneur.
C'est la même chose, c'est un footballeur. Il est entraîneur à Mankashkala, donc il peut aussi entraîner. Eto. Où c'est qu'il va choisir?
Marc Brice.
Emmanuel Coco.
Marc Brice.
Lui là, c'est qui?
Vous pouvez développer pourquoi c'est lui le sélectionneur des Lions.
Justement parce qu'il est passé par tous les canaux de sélection. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui a travaillé depuis des semaines au ministère pour arriver à son choix. Sur une liste de 30 entraîneurs, eh bien, il présente le meilleur profil.
Il a d'ailleurs déclaré que c'était très professionnel.
C'était professionnel. Voilà, madame,
si vous êtes... Cyril Bojico, du côté de la Fédération Camerounaise de Football, on annonce le nom du sélectionneur aujourd'hui. Ça sera qui?
Ça sera.
Faut qu'il annonce celui qui va payer.
Oui, c'est ce qui est prévu.
C'est ça.
Il faut que ça, il va payer.
C'est ce qui est prévu.
C'est ce qui est prévu.
Vous m'avez dit que c'est lui, donc je voulais avoir des arguments.
C'est lui?
Non, parce que lui n'a pas de salaire, donc c'est bon que ce soit lui.
Et tu crois que lui là, il va accepter de travailler?
Tu as vu d'abord tout le
parce que moi le Congo ça.
Tu as vu la mise en scène? Et tu te rappelles d'abord que Marc Brice là, le gars qui a Brice là,
oui.
Arrivait le 12. Hein.
Oui.
On a
c'était
avancé.
Le 12. Omambik arrivait le 8.
Donc aujourd'hui.
Oui. Mais le Jacques qu'on a anticipé les vols là.
C'est pas possible.
Ngachou est arrivé hier par Bruxelles. Le Brice est arrivé après.
Et ses bagages. Où sont les bagages de Marc Brice? Non, vous la sortez.
On l'a sorti de la toilette. Viens vite. Et tout veut déranger. Viens vite et tout veut déranger.
Ah, non. C'est à la suite de la réunion du comité d'urgence.
Voilà.
En fait, sauf qu'il est parti de Paris avec ses bagages.
Oui, mais sauf qu'il
maintenant, arrivé à l'aéroport, il n'y a pas les bagages.
Et ce n'est pas n'importe quelle compagnie.
Est-ce qu'il sort les bagages comme ça?
Non.
On t'a dit que c'est récupéré son quand il est rentré de son exil médical, son évacuation. Mais j'ai vu.
Ouais. Son bagage, on cherchait les bagages de Marc Brice. Il a encore le bagage à main là. Il a eu.
C'est ce matin qu'on
il a
pris
notre compagnie que nous connaissons là.
Non, non.
Il a pris la grande.
C'est la grande compagnie qu'il a pris.
Ouais, faut, tu sais,
allez, tes lunettes, mon petit.
Tu sais, cher confrère.
Oui, cher confrère.
Non,
il n'a pas pris le Marc Mazou.
Il a pris la grande compagnie que tu prends soin.
Nous, n'est-ce pas?
Nous qui séjournons dans ces endroits là. Tu fais le direct pour l'arrivée d'un entraîneur. Tu le mets dans le Marc Mazou.
En fait, il y a
tu mobilises
en fait, il y a quelque chose qui se déroule véritablement pour nous qui suivons
en
de
tout cas,
près.
Il y a, pour être sérieux, il y a son bagage qui n'est pas arrivé.
C'est pas important.
Voilà. Non, je donnais l'information.
Il y a toi, Yaoundé.
Je donnais l'information.
Pour nous-mêmes, parfois, on a voyagé sans nos bagages.
Sans nos bagages.
Non, lui, il a son bagage.
Est-ce que là où on partait, là, on n'a pas eu. On a souffert de quelque chose.
Regardez-le.
Du tout.
Demande à Gabriel.
Il était avec ses deux.
Voilà.
Voilà, on connaît les lions.
Même quand c'est la
bagarre. Demande à Gabriel Kouéni quand on
non,
est parti.
Non, c'est son manager.
Va dans le Honkam. On a oublié nos bagages, nos sacs à main. Est-ce que la bosse t'ennuie?
On s'est pas ennuyé.
Voilà, tout était prévu.
Le sang fou.
Tout est prévu, en fait, c'est comme ça. Non,
alors,
en fait, je pense.
Le Brice, il a Brice.
Alors, qu'est-ce qui
le
se
Belge
joue?
A Brice.
Bah, il, qu'est-ce en fait, qu'il se joue?
Il se joue, bon, il se joue. Bon, alors, il se joue quelque chose fondamentalement, c'est que le pays est divisé. Il faut le comprendre. Et Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot, qui réclame sa légitimité dans le choix de l'entraîneur, ou alors au moins son avis sur le choix de l'entraîneur. Bon, malheureusement, un peu en oubliant l'histoire que ça a toujours été presque comme ça par moment. Hein, lorsque
même si ça ne devrait pas rester
lorsque
comme
le
ça.
Ministre, lorsque le ministre... À un moment donné, il faut laisser le football véritablement être géré par la FECA Foot. Véritablement, maintenant, il faut aussi que la FECA Foot s'entoure d'une équipe qui a un projet, un véritable projet sportif. Parce que c'est aussi ça, un peu la guerre entre les intellos et les passionnés. C'est un peu ça. Parce qu'ils vous prennent dans la faute, ils vous prennent sur votre faute. Et c'est en politique. Parce que ici, nous sommes en politique. On n'est pas dans le football. On n'est plus dans le football. On est vraiment dans la politique. Alors, Samuel Eto'o a ses soutiens dans le système, même s'il en a perdu certains d'après, certains disent. Mais il a toujours ses soutiens dans le système qui disent ne lâche pas l'affaire. Mais toujours est-il que dès que c'est parti le bras de fer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé un moyen qui est très important et qui est assez redondant et envahissant qu'on appelle les médias. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce qu'on a vu hier à la CRTV et l'arrivée de Marc Brice, c'est carrément une mise en scène. C'est une mise en scène et le contrat sera signé avec Fast et Solennité aujourd'hui. Ce n'est pas un contrat confidentiel signé dans une chambre comme ce fut le cas avec Conseil Sao, non. Ce sera un contrat qui sera signé donc avec Fast et Solennité. On a mis des moyens pour faire une grande fête, pour fêter quoi? Pour fêter un homme qui vient avec 1-0 palmarès. Mais tout ça, c'est pour envoyer un message au camp d'enfants pour dire qu'il faut faire très attention. Mais n'oublions pas, Marie-François, que c'est l'État qui donne l'agrément à la fédération comme le football. N'oublions pas que si on veut pousser le bouchon trop loin, on peut arriver à un niveau de cachon de saté. Puisque Marc Brice vient d'ailleurs avec un profil de formateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il vient comme sélectionneur? C'est le titre qu'il a, mais quel est son véritable rôle au sein de l'instance fêtière de football camerounais ou au sein du conseil des footballeurs camerounais? Peut-être qu'il vient comme formateur.
Est-ce que dans cette guerre-là, on pense encore à cela?
Le Cameroun pense à tout. Le Cameroun pense que la CAF peut passer à la trappe à la CAF. Le Cameroun pense qu'on peut être escarté. Le Cameroun pense qu'on peut dissoudre la FECA Foot. Le Cameroun pense à tout. Les gens, ces gars-là ne blaguent pas. Il y a toutes les cartes à main. Et donc, celui qui est arrivé là, quand vous regardez son profil, et vous avez le droit de faire tout type de conjectures, de vous laisser à tout type de pensées, à tout type de masturbation intellectuelle pour demander à quoi ça rime. Parce qu'en politique, les gens sont toujours cachés. C'est eux qui ont l'agenda caché, c'est-à-dire qu'en fait, il y a
Est-ce que c'est Brice le problème?
C'est pas Brice qui est le problème, Marie-Flora Massana, parce que moi, quand j'ai fait mon petit constat, c'est qu'on a ramené des gars qui avaient été virés sous Conseil Sao, c'est-à-dire que Alioune Bouka et M. Omar, je crois que c'est bien les deux, oui, là, M. Deba.
Les deux,
là,
les deux oui.
Hein, voilà, c'est les deux qui avaient été virés. Donc moi, je me suis dit, ok, on est parti de Conseil-Sao et puis on allait sur Rigo. Sur Rigo, on revient sur Brice. Mais en fait, qu'est-ce qui fait le problème? Et je regarde, qu'est-ce qu'il y a à prendre en fait? Qu'est-ce qu'il y a à applaudir? Pour moi, il y a à applaudir le retour de Omar Biyik. Vraiment, c'est ici. C'est-à-dire qu'au moins, vous vous dites, ok, bon, quand même, Omar est de retour. Il a quand même une certaine expérience du banc de touche camerounais. Et même s'il fallait une certaine rupture avec Conseil-Sao, il aurait dû assumer au moins ne serait-ce que l'intérim. C'est-à-dire que tu penses à ça.
Oui.
Il aurait dû assurer l'intérim, tout comme Bouka, qui est quand même un légendaire gardien emblématique que le Cameroun n'oublieront jamais. Et
une canne sans encaisser.
Voilà, une canne sans encaisser. Il nous a donné deux cannes. Il a joué deux cannes. C'est le seul gardien à avoir gagné deux cannes au Cameroun et l'un des rares en Afrique à avoir gagné deux cannes comme ça. Donc, du coup, d'affilée. Donc, il y a lui, il y a l'Égyptien, là, c'est les deux, c'est tout. Après, il n'y a plus personne qui a gagné deux cannes d'affilée. Voilà. El Adari, il n'y a personne qui a gagné deux cannes d'affilée. Donc, ils font partie des deux gardiens légendaires. Sur le continent africain, avoir gagné deux cannes d'affilée. Son CV est lourd. Donc, et vous avez donc un gars comme ça, vous vous demandez, ok, d'accord, allons, avant de juger n'importe quoi, allons mettre les passions, regardons, qu'est-ce qu'il y a de positif? Il y a Omam. Personne ne peut contester quand même sa place sur le banc de touche. Omam Bi. Personne ne peut contester. Et vous avez maintenant Alain Bouka. Tu dis, bon, ok, à ces deux niveaux, ces deux techniciens, nous sommes d'accord. Ça donne quand même quelque chose. Alors, tu regardes maintenant en arrière.
Il y a un Besson là qui connaît le championnat.
Voilà, ils étaient avec Conseil-Sao. Mais si Conseil était le problème, est-ce que Omam était le problème? Qu'est-ce qu'on a réparé? On a réparé le tort qu'on a fait Omam en ramenant Omam. Et Alioum, qui lui était rentré à Maroua, il gérait ses studios là-bas et ses appartements, il était tranquille. On le voyait monter et descendre. Maintenant, le problème, est-ce que c'est Brice le problème? Non, tu regardes la liste, tu constates qu'il y a un banlog là-bas, là, que le nom là, vraiment, tu demandes que, ouais, vraiment, moi, les combis, quand tu repars, chez nous, on dit à Bouddha que, donc tu arranges avec les mains, tu gâtes avec la bouche, toi encore,
c'est le nom là. Toi,
et en fait, véritablement, quand tu regardes dans les prérogatives, c'est la FECAFOO qui devait nommer un coordinateur des sélections nationales. Bon, on est allé au-delà, un peu comme pour dire, bon, tu vas faire quoi? Donc, on en est là aujourd'hui dans le tu vas faire quoi? Et maintenant, toute l'agitation qu'il y a autour de cette affaire, c'est que tu vas voir ce que je vais faire. Non, ne mettons pas ça à la guerre des personnes. Le Cameroun est en train de perdre des points sur le classement FIFA. On a eu une période FIFA qu'on n'a pas su exploiter. Même le Tchad a joué les matchs amicaux. Nous, on n'a pas joué. Ils ont joué les matchs de qualification. Ils ont gagné les deux matchs. Ouais. Avec le virevolant joueur qui joue dans Coton Sport, au Colombe de Jaé Lobo. Parce qu'ils ont deux joueurs dans le Colombe de Jaé Lobo, deux internationaux tchadiens. Qui ont voyagé en business class, s'il te plaît. Business class. Pour aller jouer pour leur équipe.
Et également un Aigle Royal de la
Ménois.
Voilà. Et un autre à Coton Sport.
Ils
ont gagné. Gardien Alain Batenant.
Voilà, les gars ont voyagé en business class. Donc nous, on est resté là à scruter le ciel pour voir si la lune sortira du côté de la FECAFOO ou du côté du ministère des Sports. Non, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Comme disait Dr Ebutu, nous ne sommes plus dans la mafia, mais dans la Camorra. C'est-à-dire que la Camorra, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que le football marche toujours avec des histoires de mœurs, de probité morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur dans le monde entier où les règles sont extrêmement rigoureuses comme dans le football. Parce qu'on sait à qui on a, quel type de gars on a affaire. Tout y passe, les paris, les matchs truqués, les boules chauffantes, la fête Seb Blatter. Vous voyez un peu, quand le FVA a mis le grappin sur Seb Blatter, c'était pour assainir le football. Mais est-ce qu'on a réussi à assainir le football? Au Cameroun, c'est la même chose. On parle des matchs truqués, des victoires United, des âges des joueurs, autant de c'est trop compliqué quand même pour l'équipe actuelle de la FECAFOO pour mettre toute son énergie sur un sélectionneur. À un moment donné, je crois quand même qu'on peut reparer le football à partir de la base, en commençant par les championnats inférieurs, le championnat national de rang compétitif, préparer les équipes à affronter les Amalek et les Al-Hilal avec toute la sérénité, et puis promouvoir les joueurs locaux, comme là ce sujet des cannabis, à travers promouvoir les joueurs locaux, parce que les joueurs locaux, on en a de qualité. La preuve que les équipes nationales des autres pays africains ont des joueurs qui jouent au championnat camerounais, c'est un championnat qui peut être crédible, à le rendre plus crédible, à remonter à 3 à 4 clubs en compétition africaine. C'est au travail qu'on devait faire à la FECAFOO.
Mais pour certains, Cyril, Emmanuel et Charles, bonjour Charles. Et
bonjour Marie-Flora Massana. J'ai une autre lecture de la situation.
Oui, tu vas parler tout à l'heure. Mais Cyril, pour certains qui estiment que, vu la situation sociopolitique de nos pays actuels, ce n'est pas le Cameroun qui devrait échapper à ce qu'on rencontre dans certains secteurs. Tout à l'heure, avant d'évoquer le football, on parlait même de la religion. C'est-à-dire qu'au niveau de la religion musulmane aujourd'hui, on est divisé. Vous avez le conseil, vous avez la commission. tradition qui vous donne deux dates différentes pour le début du jeûne, pour la fin du jeûne de Ramadan. Est-ce que c'est le football qui devait échapper à ce qui se passe véritablement?
Non, ils ont
on sait que deux clans s'affrontent. Non, véritablement, on l'a vu avec l'affaire Martinez-Zogo. On le voit d'ailleurs avec l'affaire Martinez-Zogo. Est-ce que le football allait échapper à ça?
Alors, nous sommes dans une fin de règne, comme on dit. C'est-à-dire que le président n'a plus assez d'énergie pour mettre de l'ordre. Et ils savent, ils en sont pleinement conscients, Marie-Flora Massana. Et puis, chacun sait tirer les marrons du feu. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système où les gens jouent dans nos têtes, ils coulent dans nos têtes. Moi, je ne mets pas le cœur sur ces choses-là. Parce qu'en fait, c'est la chose d'en haut là-bas. C'est-à-dire que les gars se disputent le contrôle du magot. C'est des histoires de milliards. Le championnat local, c'est les 50 millions de francs pour le champ, pour le vainqueur. C'est rien du tout, ça ne rapporte pas. Les recettes du stade de 400 000.
C'est la plus de participation d'un joueur à la CAN.
À la CAN.
T'as dit comme ça, là.
Marie-Flore Massana, est-ce que tu sais que quand tu vois les Cotons Sport faire avec la bagarre avec les Dynamo, là, et les Aigles, les Tchanglas, les Colombes, là, toute la bagarre qu'ils font, là, c'est pour gagner 50 millions.
C'est quoi ça?
Oui. 50 millions, c'est ce qu'un joueur a empoché pour aller sortir en 8e de finale de la CAN.
Même s'il ne joue pas.
Il dit, c'est ce qu'un joueur, un seul.
Bonjour, mon petit.
Nathan Douala seul paye Coton Sport ou Colombe s'il sort champion du Cameroun ou canon de Yaoundé.
C'est ce que ça veut dire.
Oui, c'est ce que ça veut dire. Et t'as dit que tout va, tout le championnat national ne vaut que 50 millions.
Quoi ça?
C'est extrêmement ridicule. Ne vaut que 50 millions. Et mais à ce niveau, Marie-Flore Massana, il n'y a pas cette bagarre. Oui. On te laisse avec ton championnat de misère. Maintenant, là où ça porte, ça rapporte des milliards.
Comme
la sélection nationale, il y a cette bagarre. Et c'est pourquoi tu vois quand on dit que c'est une guerre d'argent, c'est pour le contrôle de l'argent. C'est pas forcément pour contrôler le football camerounais.
Je suis très d'accord.
C'est pour contrôler l'argent du football camerounais. Alors,
donc c'est l'argent qui intéresse.
Mais oui.
C'est le nerf de la guerre.
La guerre des nerfs.
Certains feraient profit bas en disant OK. Tu sais, ici, c'est un match retour qui se joue. Bon, là, c'est mon commentaire de bas. C'est un match retour. Au match aller, n'oubliez pas que c'est le même Wale Kombi qui est là. J'ai voulu garder Conseil Sao parce qu'on était sur une bonne voie. Voilà. On commençait à avoir une équipe solide, structurée. Quand même, deux défaites seulement pour Conseil Sao.
Ça, c'est vrai.
Ça ne vaut pas la peine de le virer.
C'est très vrai.
J'ai voulu le garder jusqu'à la fin.
Et je me rappelle que Charles était contre.
J'étais contre le départ de Conseil Sao.
Voilà, juste en temps. Voilà, jusqu'à la fin de son contrat.
Aujourd'hui, on dit qu'il a préparé.
Ça va.
Tu me donnes
En fait,
le problème, c'est que nous sommes dans une république où on ne prend plus de décisions pour l'intérêt général. Décisions, c'est pour des intérêts particuliers. C'est les égaux. Alors, c'est ça aussi quand vous avez des ministres qui ont mis long.
Et c'est triste.
Les égos surdimensionnés.
C'est
c'est-à-dire, tu m'as humilié sur Conseil Sao. Je vais t'humilier sur.
C'est le verbe.
C'est ça. Je vais t'humilier.
On l'a humilié. Je vais t'humilier.
Pourquoi? Parce que.
Il a voulu se dédire.
Narcisse Moïse Kombi, Sa Majesté Narcisse Moïse Kombi, a pris une décision. Il a déclaré à Mondovision, à la télévision nationale, qu'on va reconduire Conseil Sao. C'est ce qu'il avait dit. C'est la parole d'un ministre quand même. C'est un. C'est pas la parole de n'importe qui. C'est quand même Narcisse Moïse Kombi, avec tout le respect qu'on lui doit. Il dit, c'est ça son intention en tant que ministre des Sports, parce qu'il regarde les résultats. Il faut le reconduire. Mais sauf que on lui fait dire le contraire. C'est-à-dire, en fait, il déclare qu'il va reconduire Conseil Sao et quelques jours après, il vient acter le recrutement de Rigobert Sombana.
C'était fort.
Pourquoi?
C'était fort, non?
Parce que le ministre ne vaut pas grand-chose dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un est passé par derrière pour imposer Rigobert Sombana. Donc, donc le ministre a été humilié. Mais comme son nom ne résonne pas fort, ça n'a pas fait trop de bruit.
Voilà.
Parce que ici, c'est aussi la guerre des noms.
Voilà.
Eto et Kombi, vraiment, Eto, ça sonne plus fort.
Ah, mais gars, il n'y a pas match.
En termes de noms, Eto, c'est Eto. Non, c'est pas ça. Pourquoi Eto, pas l'unanimité, il faut aussi le préciser. Non, c'est que.
Il
fait pas l'unanimité non plus.
Non, non, j'ai pas dit qu'il faisait l'unanimité, mais je dis qu'en termes de popularité, il est populaire.
Quand moi, les Kombi a été humilié,
ça se discute ça.
Marie-Flore Massana, j'ai eu des échanges avec certaines personnes. Le gouvernement s'était senti humilié. C'est tout le gouvernement.
Il y avait ceux qui soutenaient.
Non, le gouvernement s'est senti humilié.
C'était fort.
Humilié.
Si on dit que le gouvernement s'est senti humilié,
à ce niveau.
Qui a demandé à moi comme il allait se dédier si ce n'est le gouvernement?
Non, c'est pas le gouvernement qui a dit que c'était.
C'est qui?
Le gouvernement, ce n'est pas la présence. C'est une institution.
Comment il arrête ça?
Tu sais d'où ça vient?
Non, vous l'expliquez un truc que nous n'a pas compris. On veut juste comprendre.
Non, c'est pas. Laisse-moi finir d'expliquer. Alors, donc, on a poussé Moïse Kombi à se dédier, à acter le recrutement de Sombana. C'était normal aux yeux de certains. Mais aux yeux des autres, c'était qu'est-ce qu'on vient de lui faire faire là? On laisse le temps passer. La politique se joue en aller et retour. Moi hier, toi demain. mais c'est l'autre aujourd'hui. Aujourd'hui donc.
Aujourd'hui, c'est mon tour.
Aujourd'hui que certains résultats n'ont pas suivi malheureusement. On n'a pas laissé le temps de grâce. On n'a pas laissé le temps de la réparation à l'équipe qui était là. On a sauté dessus pour les virer. Et qui reprend aujourd'hui les choses en main, c'est moi les combis.
Après le discours du président de la République,
alors, qui était
il ramène au moins son banc de touche.
Oui, mais même si.
Juste était parti. Donc pour terminer maintenant, ce qui s'est passé hier, toute la publicité qui est autour hier de l'arrivée de Marc Brice, qui pour moi n'est pas un événement, ils viennent. Même quand le président vient, ce n'est pas en direct à la télé. Même quand le président y va aux Nations Unies, prononcer un discours et qu'il revient, on voit ça qu'aux 20h.
Les gens font Vox Pop dans son quartier,
on ne voit pas là-bas. On ne voit pas le président Biya, la certitude déployer son armada pour le direct.
Papa.
Alors, si tu as vu hier l'arrivée de Marc Brice en direct, c'est pour dire la guerre est lancée. Et nous, on est au milieu. Qui veut lutter?
Tape. Non, sauf que quand les éléphants bagarrent, ce sont les
C'est nous qui souffrons,
Marie Formassana. Donc, vous êtes là, vous applaudissez.
Qui va souffrir? On utilise des personnes spéciales. Où étaient passés les grands journalistes? Beaucoup ont refusé de coller leur image à ce qui s'est passé hier. C'était une édition spéciale.
C'est ton analyse.
Mais les grands journalistes.
C'est dénigré quand même ceux qui étaient là.
Non. On connaît qui est qui.
Du respect.
On connaît qui
est qui. Grand journaliste.
Vous voulez aller sur le sentimentalisme. On connaît qui est qui à la CRTV. Marie-Flamassana, juste dit que.
Je vois des lions et notables avec Ndemba, Coco et son. Non, je ne peux pas mentionner.
Non, toi, tu es un grand journaliste. Non. Je suis d'accord même sur ce qui a été dit par M. Bojiko. Mais maintenant, est-ce que les Camerounais. Parce que le message qu'on envoie aussi, est-ce que les Camerounais sont réduits à être adjoint? Pour moi, c'est un immense manque de respect pour quelqu'un comme François Mambiyik. Un dicton africain ou camerounais dit que si tu te retrouves deux fois devant un même arbre, c'est que tu es perdu. Comment est-ce que... Laisse-moi donner la parole, c'est mon tour. Comment est-ce qu'on peut...
Mais toi, tu es seul, ils sont deux.
C'est pas un problème, c'est juste les arguments et les faits.
Non, je suis pas contre le débat.
Comment est-ce qu'on peut donner... une dimanche, on peut réduire les légendes camerounaises, ceux-là même qui ont écrit l'histoire de notre football, au poste d'adjoint. On était parti sur une idée de nationalisation du banc de touche. Tout le monde avait approuvé. Mais s'il y a eu un premier échec, pourquoi abandonner cette idée-là? Le ministre des Sports ou alors le ministère pouvait dire « Ok, on coupe la poire en deux, on va continuer avec la nationalisation du banc de touche, mais nous allons regarder les profils camerounais qui peuvent, encore qu'on avait comme souci, je pense que c'est le critère qui a le plus prévalu, celui de la cherté des entraîneurs proposés par la Fédération camerounaise de football. On aurait pu donc choisir un collège d'entraîneurs qui allait revenir moins cher. Et là, on allait dire, ok, nous, on a choisi peut-être un collège d'entraîneurs, mais on continue sur votre lancée, qui est la nationalisation du banc de touche. Est-ce que vous trouvez normal?
Mais en même temps, c'est que je voulais...
Je termine. Est-ce que vous trouvez normal que Oman Biyik soit adjoint de quelqu'un qui a aucun football africain? Est-ce que vous trouvez ça?
Moi, je voulais... Lui, son problème, c'est la nationalisation du banc de touche.
Et moi, je trouve que c'est un manque de respect pour la jeunesse camerounaise.
Faut pas dire parce que ça vous dérange. Non. On a vu ici comment on devient sélectionneur Ndemba. Vraiment, soyons sérieux.
Je suis même très sérieux. Marie Flamassana, qui a la parole finalement?
On a examiné ici les différents diplômes qu'il fallait avoir. Est-ce que Oman Biyik a un diplôme qui va être titulaire? Posons-nous la question.
Dès que ça arrive chez un Camerounais, on pose le problème des diplômes. Est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais?
Je te pose la question de s'asseoir sur Bantou de Don Camerounais.
Est capable.
Il n'est pas disponible.
Arroga.
Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis qu'il fallait couper la poire en deux. Prendre des entraîneurs qui ne sont pas chers et qui ont la compétence pour ce poste-là. Quitte à ce qu'on dise que, ok, c'est pas un entraîneur, mais on peut faire un collège d'entraîneurs.
On revient sur
moi, je trouve que c'est un manque de respect pour nos légendes.
Vous-même, vous l'avez compris, c'est l'actualité actuellement au Cameroun depuis 7h30. On est sur ce sujet.
On va parler de Bafia
tout à l'heure. On termine d'avoir le
football. Bafia, c'est ma nouvelle chanson.
On m'a donné la parole à 7h56. À peine j'avais développé mes deux premiers arguments.
Demba va à la télé. Comme tu parles souvent, tu viens ici à la fin.
Mais je demandais, pourquoi vous stigmatisez Ndemba?
En direct. Spécial aux supporters du Canon de Yaoundé qui traversent une passe vraiment difficile. L'entraîneur est tombé malade au début des playoffs. Il a été remplacé. Il y a eu beaucoup de remous. Bienvenue à Jules Onana, qui est le nouveau entraîneur du
Jules Canon. Jules Denis?
Non, Abba.
À Jules Abba Onana.
Vous êtes toujours comme ça?
Parce qu'il était mené de 1 en studio. Maintenant, au téléphone, ça sera, tu vois, mon petit pas à la télé. Jean-Bruno qui est au téléphone avec nous, Romain Delphin. Bonjour, Jean-Bruno.
Bonjour, Marie-Flore et tous les auditeurs de Balafon.
Alors, Jean-Bruno, la situation en ce qui concerne le nouveau sélectionneur des Lions Enanta, parce que c'est ça le véritable problème. La fédération, le ministère des Sports et l'Éducation physique qui a nommé un nouveau sélectionneur. Il est arrivé à Yaoundé hier. Il devrait en principe signer son contrat aujourd'hui à 15h. Un sélectionneur que ne reconnaît pas la fédération camerounaise de football, qui, elle, annonce à son tour, bien sûr, un autre sélectionneur. Le comité d'urgence a donné donc 72 heures au président de la Fédération Camerounaise de Football pour donner le nom du sélectionneur version FECAFOOT. Pour certains, ce nom sera donné aujourd'hui, mais on ne peut rien attendre. On attend véritablement d'avoir en pleine formation un nouveau sélectionneur, Marc Brice, qui arrive en grande pompe en direct à la télévision nationale, la CRTV. Il est reçu, il dit d'ailleurs qu'il est enthousiaste et qu'il est prêt à travailler. Il salue le processus de sa nomination, qu'il dit professionnel, je reprends ces termes. Votre analyse, Jean-Bruno Tagnet, de la situation qu'on vit actuellement, parlant de la sélection, du sélectionneur des Lions et Indomptables.
Alors, c'est une situation malheureuse, comme tout le monde peut l'observer, que dans un pays, on n'arrive même pas à s'entendre sur le choix d'un simple entraîneur de football, d'un simple sélectionneur pour une équipe nationale. Cela signifie que nous avons véritablement touché le fond. Maintenant, vous savez, la décision de la fédération de ne pas reconnaître le sélectionneur nommé par le gouvernement à travers le ministre des Sports n'est pas inédite. Elle n'est pas inédite et j'ai publié d'ailleurs un extrait de mon livre il y a quelques jours où je racontais comment la Fédération Camerounaise de football, alors dirigée par Iya Mohamed, avait refusé de signer le contrat du sélectionneur Otto Pfister. Mais, précision importante, Iya Mohamed avait dit à l'époque qu'il ne signera pas son contrat pour montrer qu'il est contre le choix de ce monsieur qui ne faisait pas partie de la short list qu'il avait proposé au gouvernement, mais qu'il le laisserait travailler, mais ne collaborera pas avec lui. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui, parce que la Fédération Camerounaise de football n'a pas décidé de prendre acte de cette nomination du nouveau sélectionneur qui aurait été faite sans consulter la fédération, mais a décidé de nommer aussi son propre sélectionneur. C'est un acte de défiance et une bravade complètement inutile, parce que c'est un bras de fer qui est d'office perdu. Et le président de la Fédération Camerounaise de football qui s'est engagé dans ce bras de fer lui-même sait que c'est un bras de fer perdu, mais son acte de bravade, c'est pour la foule. C'est pour cette foule complètement fanatisée qui le suit, qui l'applaudit pour toutes sortes de choses, même quand il sait que le combat, il est absolument perdu. Parce que quel entraîneur sérieux, à votre avis, peut accepter d'être désigné par la Fédération Camerounaise de football dans ces conditions? Quand un entraîneur a déjà été recruté, est arrivé au pays, filmé en direct à la télévision publique et son contrat, la signature de son contrat va être également certainement filmé à la télévision publique, c'est vraiment un mécanisme qui a été mis en œuvre par le gouvernement pour montrer que c'est nous qui avons la haute main sur cette affaire. Donc, honnêtement, il faut le reconnaître, le match du sélectionneur est perdu par la Fédération Camerounaise de football. Il faut malheureusement qu'il prenne acte de cette situation et qu'on avance.
Mais Jean-Bruno Tagnet, la situation, du côté de la Fédération Camerounaise de football, on ne baisse pas les bras, on fonce véritablement, tu l'as si bien dit, contrairement à Iya Mohamed qui avait pris acte justement de la décision du ministère, avait refusé de signer le contrat, mais avait dit que elle, la Fédération, laissait bien sûr l'entraîneur ou allait accompagner l'entraîneur pour qu'il puisse faire son travail normalement. Dans ce contexte, le contexte, lui, il est différent aujourd'hui. La Fédération qui campe sur sa position, le ministère également. Quelle suite donner à cette affaire aujourd'hui, notamment où on annonce la signature du contrat de Marc Brice et la fédération qui, elle, annonce bien sûr qu'elle va publier le nom de du sélectionneur version Fédération Camerounaise de football.
Alors, quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire, c'est que le match, il est plié. Marc Brice est le sélectionneur, est le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui puisse changer quoi que ce soit à la donne. Parce que quand vous regardez la manière de procéder de ce gouvernement, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout, ils sont prêts à tout accepter. La seule chose qui reste à la Fédération Camerounaise de football, c'est peut-être de saisir la FIFA pour dire que elle ne reconnaît pas le sélectionneur qui a été désigné par le gouvernement. Et logiquement, si la Fédération Camerounaise de football saisit la FIFA pour dire qu'il y a un type qui a été nommé à la tête de l'équipe nationale de football que nous ne connaissons pas de toutes les façons, ce n'est pas le sélectionneur que nous avons choisi et ce n'est pas le sélectionneur que nous voulons, la FIFA va constater que la Fédération Camerounaise de football n'accepte pas le nouveau sélectionneur. Et tout ce que la FIFA peut faire, c'est quoi? C'est soit suspendre le Cameroun pour ingérence gouvernementale dans le fonctionnement de la Fédération Camerounaise de football, ou alors demander au gouvernement de reculer. Si jamais le gouvernement recule, on avance. Mais il n'est pas possible que le gouvernement recule sur ce coup-là, parce que si c'était le cas, il n'aurait pas procédé avec autant de folklore qu'on le voit en ce moment. Donc, si on suspend le Cameroun, là encore, c'est la Fédération Camerounaise de football qui paie, parce que vous ne pouvez pas être président d'une fédération de football avec une équipe nationale qui est suspendue de toutes les compétitions internationales. Ça veut dire que vous devenez le président d'une coquille vide. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a plus grand-chose à faire, sauf quelques petits actes de bravade destinés à la foule, comme celle qui va consister peut-être à donner le nom de quelqu'un, mais ce n'est pas recruter, parce que c'est très facile, hein, n'importe qui peut faire un communiqué pour dire « Monsieur Untel est sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, nommé par la Fédération Camerounaise de football, encore faudrait-il qu'il prenne fonction, encore faudrait-il qu'il travaille ». Et la première question que n'importe quelle personne intelligente va poser à celui qui le nomme, c'est « Comment vous me payez ?» Si vous recrutez quelqu'un aujourd'hui à Radio Balafon, la première question, c'est il veut savoir comment il va être payé. Or, celui qui paye le sélectionneur au Cameroun, c'est encore l'État du Cameroun et qui a décidé de choisir son sélectionneur. Voilà. Donc, vous avez pu observer que je ne souhaite pas entrer dans le débat juridique sur... il y a le décret de 2014, il y a la convention FECAFOOT, ministère des Sports et tout. Je pense que c'est un débat qui... les arguments se valent. Si vous prenez les arguments qui sont brandis par la Fédération Camerounaise de football de Samuel Eto'o, ce sont des arguments qui tiennent la route. Vous prenez ceux du ministère des Sports qui justifient la décision du gouvernement de nommer le sélectionneur. Ce sont également des arguments qui tiennent la route. Donc ce débat juridique-là, de toutes les façons, on ne va pas le trancher à la radio. C'est devant les prétoires qu'on tranche les débats de droit. Mais par contre, il y a un argument de fait. C'est qu'il faudrait que les Camerounais se posent une question. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le gouvernement a décidé de prendre de désigner un sélectionneur pour les Lions Indomptables? Alors, il faut remonter au discours. Je considère que c'est le discours un peu fondateur de ce que l'on observe aujourd'hui. C'est le discours du président Paul Biya le 10 février 2024 à la jeunesse. Et dans ce discours-là, il est très clair. Il dit, je sais ce que représente le football pour vous, mais en réalité, c'est pour lui-même aussi, parce que pour lui, le football, surtout les Lions Indomptables, c'est très, très important. Il dit, ce football-là a besoin d'être bien organisé. Il dit l'État consent d'énormes sacrifices financiers, il faut noter financiers, et est en droit d'exiger des résultats. Je vais donner des instructions au gouvernement et au ministre des Sports afin que de l'ordre soit mis en place, quelque chose de ce genre. C'est-à-dire qu'il a instruit le gouvernement et le ministère des Sports de reprendre les choses en main. Donc, quand on a écouté ce discours du président de la République et qu'on voit les actes du ministre des Sports aujourd'hui, il faut être complètement à côté de la plaque pour penser que ce sont des actes personnels de M. Moëlle Kombi. Non, il a reçu des instructions. Et ces instructions ont été publiques par le président de la République dans un discours que tout le monde a écouté. Et ça, c'est pourquoi? Parce que pendant 2 années, on a laissé la possibilité à l'exécutif actuel de la Fédération Camerounaise de football de gérer en totale liberté l'équipe nationale de football du Cameroun. Aucun autre président de la Fédération Camerounaise de football n'a bénéficié d'un tel état de grâce, n'a bénéficié d'une telle liberté pour gérer le football. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que malheureusement, le président de la Fédération Camerounaise de football a fait un peu n'importe quoi. Il utilise l'équipe nationale pour régler ses comptes. C'est lui qui décide de quel joueur va être sélectionné ou pas. Vous connaissez l'épisode de Choupo-Moting et vous avez reçu son père sur votre plateau qui a dit pourquoi son fils n'avait pas été sélectionné. On a mis un certain nombre de joueurs de côté alors que c'était des joueurs performants qui auraient pu permettre à l'équipe de gagner. Deuxième chose, il est descendu de son piédestal de président de la fédération pour aller sur le terrain, entraîner l'équipe alors qu'il avait nommé un sélectionneur. On ne compte pas également un certain nombre de choses, le contrat de One All Sport, complètement fou, personne ne sait rien là-dessus. Bref, il a fait un peu n'importe quoi et le gouvernement a décidé de reprendre la main sur le football camerounais et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Quand il a choisi Rigobert Song, personne n'a bronché. Le gouvernement a même désavoué un membre du gouvernement pour faire confiance au président de la Fédération camerounaise de football parce qu'à cette époque, il avait vendu le fait que il connaît le football et personne ne peut le lui nier. Il connaît effectivement le football. Il avait vendu également le fait qu'il avait la possibilité de faire que le Cameroun gagne la Coupe du Monde. Et Paul Biya a dit, donnez-lui tout ce qu'il veut et je ne veux aucune interférence dans son travail. Mais le moment venu, il va assumer les échecs. On va célébrer la victoire ensemble. Tout le monde, le peuple lui sera reconnaissant. Mais s'il échoue, il va en assumer les échecs. Deux ans après, on fait une évaluation, on se rend compte que ça ne va pas et on a décidé de lui reprendre les choses. Donc, voilà le contexte de désignation par le gouvernement du nouveau sélectionneur, au-delà du juridisme qu'on peut faire sur tel décret ou tel circulaire ou telle loi, ainsi de suite.
De façon plus globale, Jean-Bruno Tanier, on a aujourd'hui deux camps qui s'affrontent pour la nomination du sélectionneur. Si on reste en sport, on a deux présidents au volleyball. On va en politique, on a deux UPC, on a deux PCRN pratiquement. Est-ce que vous rejoignez l'avis de Cyril qui disait la semaine dernière que la politique est rentrée véritablement dans le football et qu'à ce moment, on ne parle plus de sport, mais on parle politique?
Oui, à partir du moment où, il y a des considérations politiques et politiciennes qui entrent en jeu, on ne peut qu'assister à ce genre de cafouillage. Parce que vous parlez effectivement de cette situation de bicéphalisme que l'on observe à la Fédération camerounaise de volleyball. Ça, c'est une situation qui est absolument inacceptable et qui montre également la fragilité des institutions du Cameroun. Comment en arrive-t-on dans une situation où il y a deux présidents d'une fédération en même temps? Cela signifie que il y a une partie qui refuse de respecter les décisions de justice. Parce que dans le cadre de la Fédération camerounaise de volleyball, il y a bien des juridictions qui ont rendu leur verdict et ont donné raison à M. Abouem, qui est le président que l'on considère comme véritablement légitime hein, de la Fédération camerounaise de volleyball. Donc c'est une crise des institutions. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans un pays où les citoyens ne font plus confiance dans la justice, où l'État même ne respecte plus les décisions qui sont rendues par la justice, c'est quelque chose d'absolument grave et de regrettable qui ne promet rien de bon pour l'avenir de notre pays.
Merci Jean-Bruno Tanier et bon début de semaine.
Bon début de semaine Marie-Flore, à bientôt.
À bientôt. Alors, il a dit, Cyril, c'est vrai que tu l'avais déjà dit, aujourd'hui, on a l'impression que la politique est rentrée véritablement dans tous les secteurs d'activité. On évoque ce sujet en sport qui devrait concerner le football, mais on fait une fixation sur la sélection nationale. Pourtant, il y a d'autres sélections. Il y a même la sélection féminine de football. Jean-Bruno revenait tout à l'heure sur...
Il y a 11 sélections. Voilà. Il y a 11 sélections en football. 11 sélections.
Jean-Bruno revenait tout à l'heure sur le volleyball, eh bien, il faut rappeler que celui qui est, comment je vais dire, l'Afeka volley a subi la même chose. On a
au golf même.
Voilà, on a Abouem qui a gagné contre le ministère des Sports devant le juge administratif, mais la décision n'a jamais été appliquée puisqu'il y a un autre président qui est le président. Voilà, qui est le président actuel. Lui-même avait été élu à 2h du matin, donc pour revenir là-dessus. Donc, qui s'affronte chacun avec ses arguments. On laisse un tout petit peu le côté juridique pour le cas de la Fédération camerounaise de football, mais là, véritablement, on se focalise sur la déclaration du chef de l'État, sur le discours du chef de l'État, le 10 février dernier, mais pour les autres cas, ce n'est pas le discours du chef de l'État. Généralement, ce sont les hautes instructions qui parlent.
Oui, mais parce que justement, nous sommes dans un système de parrainage, un parrainage occulte dans ce pays où des gens ont des bras longs, des gens ont des contacts, et ces contacts, à partir de ces affinités ou de ces copinages, l'intérêt général est mis de côté pour des intérêts égoïstes. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir satisfaire le poulain. C'est notre gars, laissez-le là-bas. On dit non, monsieur tel, les textes disent, laissez les textes là, ainsi de suite. Mais c'est ça malheureusement parce que nous sommes dans un pays où les gens ne savent pas se lever pour défendre la Constitution. Nous sommes dans un pays où tout le monde viole les textes. Marie-Flore Ramassana, ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui, même si par endroits les textes sont discutables, le texte fondamental, la convention de 2015, lui, donne la latitude au ministère des Sports de désigner un entraîneur. Ou d'avoir 70% de, en fait, sur la balance, si je suis bon en mathématiques, ça fait 70% pour le ministère des Sports. Parce que même au cas où le contrat est signé avec la FECAFOOT, il faut l'avis obligatoire. Non, c'est écrit comme ça. Et c'était depuis Adum Garoua, ce n'est pas moi les combis, non. C'est depuis Adum Garoua que ça a été ainsi. On dit l'avis obligatoire. Je ne sais pas si ailleurs l'avis est obligatoire. On peut demander l'avis favorable. Donc, un avis consultatif. Mais si l'avis n'est plus consultatif, il devient un avis de principe. C'est-à-dire que le principe, c'est que si le ministre ne donne pas son avis, le sélectionneur que vous prenez n'a pas de sens. Il n'a pas à s'asseoir, il n'a pas à voir au chapitre. On en est là. Pourquoi ? Parce que généralement, nous sommes pressés de prendre certaines responsabilités, mais sans étudier le contexte dans lequel nous les prenons. Beaucoup de gens prennent des fonctions de lire d'ailleurs les règlements et les textes pour savoir comment ça fonctionne. Et du coup, on a beaucoup de dirigeants qui se mettent en porte-à-faux. Vous avez vu dans les entreprises de parapublic, par exemple, comment parfois les conseils d'administration désavouaient les directeurs généraux parce qu'ils n'avaient pas lu justement le fonctionnement, même l'organigramme. Est-ce que vous savez aujourd'hui, vous parlez de la FECAFOOT, Marie-Flore Massana, je peux vous citer aujourd'hui trois administrations publiques qui n'ont pas d'organigramme. Jusqu'à présent, n'ont pas d'organigramme. Et si je vous donne un ministère qui n'en a pas, vous serez scandalisé. Vous vous demanderez, mais et ce ministre qui se pavane partout, il monte et descend là. Il n'a pas d'organigramme structurel, organisationnel et fonctionnel. Il n'y en a pas. Donc à partir de là, vous voyez que quand on met en place une si haute administration, sans lui conférer une structure, ou du moins un manifeste structurel, organisationnel et fonctionnel, vous voulez que ça marche comment ? C'est qu'en fait, on a créé un anglo où on a mis des gens pour les contenter avec des titres. Mais en fait, et vous allez voir que, à partir de ce ministère qui n'a pas d'organigramme, regardez un peu cette structure décentralisée, déconcentrée. Vous allez voir que certaines structures ici ont un organigramme qui n'est pas équivalent à celui qui est là-bas. Si j'en parle ici, ça fera l'objet de deux autres débats. Ce sera notre sujet. Nous allons préparer ça et on présentera ça aux Camerounais. À partir de là, maintenant, vous comprenez comment le pays fonctionne. C'est le pays des gens. Ce n'est pas le pays d'une institution ou d'une... Non, c'est le pays des gens. Des propriétaires du Cameroun. Les propriétaires du Cameroun. Et aujourd'hui, c'est une guerre de propriétaires. L'équipe nationale, c'est pour moi. C'est pour moi. Non, c'est pour moi. Arrache, arrache, arrache. Arrête-moi si tu peux. C'est le ping-pong, un chute de chute.
C'est la bataille des chéris.
Vous ne verrez pas ça ailleurs. Nous, on est un pays déjà humilié depuis longtemps. On s'est auto-humilié. Quelqu'un a dit un jour que c'est parce que la gueule qui sauve les Camerounais. Parce que vraiment, la gueule, le hora est loin de la honte. On devrait avoir honte. Regardez un peu dans quel contexte ça arrive, M. Brice. On aurait pu laisser faire. Dit bon, ok, proposer si on peut payer. Dans le cas contraire, laisser faire. Ok, on va travailler avec lui. Parce que nous, on a un intérêt. Parce que la plupart des fois où on a des semaines qu'on a vu, on a eu des résultats.
Oui. L'argument là ne tient même pas.
Donc, le Cameroun, c'est un pays assez particulier. Mais dans le contexte actuel, Marie-Flore Massana, il y a un détail qui échappe aux gens. Ce n'est pas la forme là qui est un problème, c'est le fond. Je pose la question à un Camerounais aujourd'hui qui écoute, qui est sérieux. Êtes-vous capable de me sortir la liste des 22 lions de Ontario actuels, maintenant là?
Parce qu'on change.
Mais parce que c'est vrai quand même.
Ouais, est-ce que tu peux me sortir la liste des 22 ou de 23 lions là maintenant? Tu dis voici les lions actuels, à l'heure-ci, les voici.
J'en dans mon fichier de joueur.
Parce que quand nous on part ailleurs, copions le pays que nous on connaît plus que notre propre village, l'équipe de France. Tout le monde connaît jusqu'au l'équipe de France, remplaçant. Jusqu'au remplaçant. Pava est ici, tel est là-bas, ici.
Jusqu'à
ici.
Ceux qui sont pressentis même
Brice Samba, on l'a vu venir. Brice Samba est là, le prochain capitaine c'est tel, Mbappé est ici, Kolomwani est ici. Meignan est là. Vous avez une équipe qui est constante, mais la sélection du Cameroun est extrêmement inconstante. Et des joueurs qui ne viennent pas, et ceux qui simulent les maladies, ceux qui choisissent les matchs amicaux, et les gardiens, la hiérarchie des gardiens de but qui n'existent pas. Le poste de gardien de but est un poste qui est très sensible. Et l'organisation d'une équipe, d'ailleurs, la structure d'une équipe nationale, c'est à partir des postes de gardien de but. Je ne le dis pas parce que je suis un ancien gardien de but amateur. Non, parce que c'est par là qu'on constitue une équipe. C'est de derrière qu'on monte. On ne choisit pas les attaquants, on les choisit derrière. C'est d'abord derrière qu'on monte. Et quand vous avez une équipe comme le Cameroun qui n'a pas une hiérarchie de gardiens de but entre Ondoa et
Onana.
Ou même encore
Epassi.
Ou même encore Moussala. Moussala. Qui est le gardien de but de l'équipe de Cameroun? Vous avez des gardiens qui se contestent la hiérarchie. D'un match à un autre, on change de gardien de but. Mais vous avez vu ça où? Vous voyez qu'il y a un tâtonnement, même au niveau de staff, on manque de sérénité, on n'est pas ferme. Et vous avez un sergent qui vous dit que non, vraiment, je lis ce qu'on m'a donné. C'est autant de choses, mais il faut, à un moment donné, il faut faire le ménage. Nous sommes d'accord que certaines méthodes sont discutables, mais reconnaissons qu'il y a un problème. Il nous faut reconstituer un 11 national ou un 23 national. Quand on sait que non, voilà nos gars, que Koundé Malong est là, que tel est là, que voilà notre ossature. Parce que n'oubliez pas que dans les prochains jours, nous accueillons le Cap-Vert, qui n'est pas un enfant de cœur et qui nous a souvent humiliés, même en sol, même dans ce type de compétition. Le Cap-Vert qui n'est pas un enfant de cœur. Donc, il faut ça au moins. C'est au moins le football qui nous donne un peu le sommet parfois. Hein? Quand ces gars jouent au beau football, parce qu'on a eu à la CAN 4 matchs. 4 équipes différentes, 4 systèmes de jeu différents. Donc, techniquement, il y a des choses à refaire. Alors, si on est d'accord là-dessus, laissons faire.
Et pendant qu'on parle du football, eh bien, les prix s'envolent sur le marché. La ménagère n'arrive pas à nourrir sa maison aujourd'hui. Même les huiles raffinées, c'est ça oui, les huiles raffinées que le ministre avait annoncé, notamment, comment je vais dire, la baisse des prix de ces huiles-là, eh bien, rien n'a changé dans les différents rayons. C'est le même prix qui est toujours appliqué 2 semaines après la décision du ministre du commerce. Et moi je suis fière parce qu'on va changer de sujet. On parle plus du football ici, c'est fini comme ça. Si vous voulez parler, venez vous asseoir ici.
Va prendre ta carte de lecteur.
Non, j'ai ma carte de lecteur depuis des années. Je vous rappelle que je vote et je contrôle mon vote. Faites attention.
Mon bureau de vote, c'est à l'école publique des dos.
Moi, mon bureau de vote, c'est au collège et Yenge.
Oui, c'est pour vous là-bas.
Je vote et je contrôle mon vote.
Ouais, votez.
Donc faites comme nous.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a les gens qui sont inscrits.
Tu
ne comptes
pas les prix sur le marché.
Le jour du vote, ils sont à Douala ou à Yaoundé. Mais vous ne partez pas voter.
Contrôle les prix.
Moi j'ai changé. Je vous dis qu'on ne parle plus du football ici. C'est
on a
fini.
Changé.
C'est terminé.
C'est toi qui es venu ici il y a 2 semaines. Tu as dit que l'huile, tu as baissé. Maman.
Elle est venue se vanter ici que le ministre a baissé le prix de l'huile.
Les gens disent que l'on ne mange
pas. Tu as vu sur le marché le prix de l'huile là.
Et c'est toujours.
Tu as dit que tu as un ministère des annonces. Des annonces de prix.
Le prix du pain a
baissé. Ça fait partie, c'est normal, mais est-ce qu'en réalité sur le marché les prix ont baissé?
Non.
Ok. En avance.
Non, non. Le ministre avait fait un communiqué pour annoncer que certaines marques d'huile avaient baissé, les prix avaient baissé. Mais 2 semaines plus tard, eh bien, le constat est clair. Rien n'a baissé dans les différents.
C'est déjà
marchés.
Les commerçants méprisent le ministre du commerce.
C'est incroyable.
Ce n'est pas la première fois qu'il ait ce type de camouflet. Il a plusieurs fois annoncé, il a empêché la
le ciment.
Le ciment,
les
on a augmenté.
Même.
Les meuniers, on a augmenté. Le prix du courant, on a augmenté. Le prix de la bière, on a augmenté. À chaque fois que le ministre s'oppose...
Que valent les déclarations du Mincommerce?
Rien.
D'accord. Rien du tout. Parce que les commerçants même ont une phrase là. C'est le ministre qui m'a donné le capital.
C'est
tu
tout.
Vois oui, c'est ce
quand il est parti sur machine des dos pour faire la campagne des baisses des prix, mais que tu as donné le capital aux gens.
Parce que vous êtes là, vous parlez du football. Non, pas
non,
du football.
Non,
parce que parler du football, c'est global. Parler des lions de
Nantes,
alors qu'on a les problèmes.
Parce qu'on a un véritable problème. On a un problème de politique économique. Et la plupart des personnes que nous avons consultées qui partent dans nos émissions l'ont toujours dit. Nous, on ne se fait pas les experts en la matière, mais on résume un peu ce qu'on a compris. Le Cameroun a mal pensé son économie. Je prends le cas de la SICAM. Le Cameroun produit du coton. Parce que je rappelle que la plupart des pays qui produisent l'épargne ne produisent pas du coton. Est-ce que vous savez ça? La plupart des producteurs de paille ne produisent pas le coton.
Donc on est béni à ce niveau?
Ils importent du coton pour le transformer en paille. Et puis pour le commercialiser. Le Cameroun produit du coton. On a la SAU des cotons créée
par l'État.
On a. Où se trouve la SAU des cotons? C'est à
Garoua.
À
Garoua.
À Garoua. Et à Garoua, on a la SICAM, vrai ou faux?
Vrai.
Donc
vrai.
On avait pensé que le
ça
coton.
Du champ, allez.
On peut le produire. On peut le transformer là-bas. Pour habiller la femme du septentrion qui aime bien s'habiller en panne. C'est un marché. Et à Douala. On a créé également la SICAM. Nous sommes d'accord?
Oui.
Que devient la SECAM aujourd'hui? Nous continuons de produire du coton. Est-ce encore en quantité suffisante pour le marché? Que se passe-t-il? C'est un problème de
casse. Au Nigeria, d'après
tant que nous allons continuer à choisir des gens sur la base des questions politiques, de leurs états de service dans le parti, on va arriver à ça. Parce que dans tous les cas, les plus compétents, même, il y a des compétences qui ne sont même pas dans les formations politiques, qui sont à politique. Mais
je rappelle que 80% de la production de la Sodé coton, 80% de sa production de fibres de coton est de qualité supérieure.
C'est l'un des meilleurs cotons du monde. Ça fait que le Cameroun produit l'un des meilleurs tissus au monde. Marie-Flore Ramassana, je me souviens, quand je faisais le mango, il y a 15 ans aujourd'hui, j'étais allé à la SECAM pour produire des pagnes. Si vous voyez les pagnes de ce festival des Bambutos, jusqu'aujourd'hui, il est intact. Les pagnes de la SECAM font partie des meilleures pagnes sur le continent africain.
Comme les anciens pagnes.
Je vous dis que de 2006 à maintenant, on est à 18 ans. Demandez aux femmes Bouddha qui ont acheté ces pagnes-là. Les pagnes sont intactes, la couleur est là.